Nous arrivons à la fin de cette journée et ce séminaire sur le temps et l'aménagement, et nous vous proposons de conclure temporairement cette réflexion avec un dialogue avec vous, Sébastien Simril et Jean-Luc Godin. Vous êtes l'un et l'autre élus de ce territoire, Rennes Métropole. Il est intéressant justement de voir de quelle manière ici, à Rennes et dans l'agglomération de Rennes Métropole, dans la métropole, comment cette question du temps est très concrètement prise en compte dans les problématiques d'aménagement. Alors, on va parler avec vous, Sébastien Simril, vous êtes le premier adjoint à la maire de Rennes, délégué à l'urbanisme, au développement durable, justement d'un grand projet qui vous mobilise depuis déjà plusieurs mois, qui s'intitule Rennes 2030, qui vise à imaginer, comme son nom l'indique, eh bien, ce que sera la capitale bretonne à l'horizon 2030, donc dans une petite quinzaine d'années maintenant. Et depuis plusieurs mois, ici à Rennes, il y a eu des présentations, des consultations, des débats, de la prospective autour de ces questions-là, et ça va être vraiment intéressant que vous puissiez nous dire comment cette dimension temporelle a été inscrite dans le débat. Et puis, Jean-Luc Godin, vous êtes, vous, le vice-président de Rennes Métropole en charge de l'aménagement. Vous avez suivi nos travaux, vous êtes intervenu à plusieurs reprises au cours de nos échanges ce matin. Il y a aussi un grand document d'urbanisme qui est en cours de révision ici, c'est le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle de Rennes Métropole. Ça sera aussi la même question, de savoir comment vous intégrez ces questions-là du temps dans les aménagements. On va peut-être commencer avec vous. Normalement, les micros fonctionnent. On les a vérifiés juste avant de commencer. Avec vous, Sébastien Simril, pour que vous nous disiez justement cette question du temps. Lorsqu'on s'intéresse à Rennes 2030, on est déjà en prospective. C'est la révision du PLU de Rennes. Mais cette dimension des temporalités urbaines, on a beaucoup parlé de temporalité, de pulsation tout au long de cette journée. Comment c'est intégré très concrètement dans vos projets?
On a combien de temps, Xavier?
Le temps qui est le vôtre, hein, c'est-à-dire, on peut se dire, quelle heure est-il? Je ne vais pas regarder l'heure, on a une petite demi-heure.
D'accord.
Avec plusieurs sujets à traiter, oui, voilà, pas simplement cette question-là.
Non, mais je vais essayer d'être synthétique, même si le sujet est assez vaste, et puis est aussi tiré d'une histoire, mais je pense que Katia Kruger n'a pas manqué de rappeler d'où l'on venait à Rennes.
Oui, ça, on l'a bien évoqué, sur ce bureau dossier. Des temps.
Si on doit répondre précisément, Xavier, à la question et aller à l'essentiel, je pense que depuis finalement à peu près 40 ans, nous sommes dans une planification urbaine à travers un certain nombre de documents d'urbanisme, de réglementation d'urbanisme, qui d'ailleurs n'ont fait que compiler un certain nombre de pages du code de l'urbanisme qui s'est élargi. Il n'y a pas que le code du travail qui a évolué et qui a grossi sur ces dernières décennies. Le code de l'urbanisme fait partie également de cette situation. Et finalement, aujourd'hui, on est sans doute à l'aune d'une approche nouvelle du traitement de la question urbaine dans nos villes à travers le temps, tout simplement. Donc finalement, pendant 40 ans, on a traité l'espace. On a essayé de planifier l'espace et aujourd'hui, le temps devient un indicateur très intéressant justement pour appréhender l'objet ville. Alors, pourquoi cette nouvelle coordonnée finalement dans notre approche urbaine? C'est tout simplement que nous sommes aussi en train de changer de paradigme où finalement, ces 40 dernières années, nous étions plutôt dans une gestion saine, mais néanmoins réelle de l'extension urbaine. Derrière ce mot un peu jargonneux, c'était tout simplement de veiller à ce que la ville ne s'étale pas trop, mais quand même, elle s'étalait parce que nous avions besoin de construire des nouveaux aménagements, d'accueillir les populations. C'est le cas de toutes les communes, pas seulement de la ville centre Rennes. C'est d'ailleurs inscrit très concrètement dans les projets urbains de différentes communes à l'échelle d'un projet urbain que Jean-Luc ne manquera pas de rappeler autour de ce concept de ville-archipel. Et changement de paradigme parce que finalement aujourd'hui, on va sans doute progressivement quitter la question de l'étalement urbain pour appréhender un sujet plus complexe qu'est le renouvellement urbain. Et c'est finalement penser la ville dans sa reconstruction sur elle-même. Alors plus compliqué parce que bah, évidemment, quand on renouvelle la ville sur elle-même, c'est énormément de sujets. Et finalement, l'indicateur temps peut être une variable très intéressante. Si on cite un maire honoraire de Rennes, Edmond Hervé, rappeler qu'une ville, si elle n'est pas tenue, c'est ce qu'il disait souvent, est une formidable machine à exclure.
Il continue de s'intéresser à ce sujet, il était là parmi nous.
Voilà, mais il est toujours d'une manière très discrète, mais néanmoins est très efficiente. Et c'est vrai que c'est important parce que le temps peut être aussi pour nous un facteur d'identification des inégalités sociales. Je reprends mon exemple de l'étalement urbain. Lorsque vous avez une ville, effectivement, qui exclut, qui n'est pas tenue, où finalement les élus, pour répondre aux besoins de la population, lâchent l'étalement urbain, eh ben vous avez, par la gentrification, qui est finalement l'enrichissement progressif des mètres carrés, du prix du mètre carré dans le cœur de la métropole, eh bien vous avez une relégation qui se fait progressivement et qui finalement expulse les populations les moins favorisées ou les plus démunies à l'extérieur de la ville. Un chiffre, parce qu'il est aussi important de se raccrocher à une réalité de terrain. Sur la métropole rennaise, parmi les 430 000, 425 000 habitants, vous avez un tiers qui gagne par foyer fiscal moins de 1 250 euros et un autre tiers qui gagne entre 1 250 euros et 2 500 euros par mois. Donc ça veut dire que concrètement, vous avez plus de 300 000 habitants sur une aire métropolitaine comme Rennes Métropole qui, si nous ne maintenons pas, si nous ne tenons pas la ville, qui sont mécaniquement, de facto exclu de la ville, exclu des lieux où on travaille, des lieux de loisirs, des lieux de vie culturelle. Et finalement, pour résumer cette question de renouvellement urbain, eh bien, effectivement, le facteur temps, le temps d'accès, le temps de passer de son domicile à son travail, peut être un indicateur très intéressant pour justifier ou en tout cas expliquer ce qu'est la densité ou le renouvellement urbain. Et un dernier chiffre, mais je ne sais pas si on verra la vignette.
On peut la voir, voilà, elle apparaît.
C'est aussi de manière très concrète et in concreto de montrer ce que peut être un projet urbain à travers l'approche temporelle. Les deux piliers finalement du développement durable ou d'une ville équilibrée, c'est le logement, que chaque personne puisse trouver à se loger. Se dire, sans être dans un discours de politique générale, de dire que le logement n'est pas un bien économique comme un autre, c'est un bien de première nécessité qu'il faut absolument encadrer, réguler, pour que chacun puisse trouver sa place. C'est finalement le premier pilier de la ville durable. Et le deuxième pilier, c'est l'accès. L'accès, la ville agile, la ville des accessibilités. Et quand on voit cette carte, par exemple, notamment voilà, c'est...
Donc alors, ça, c'est l'objectif
de la deuxième vignette, pardon. C'est la deuxième vignette qui va arriver avec la deuxième ligne de métro. Lorsque nous livrerons la mise en exploitation de la deuxième ligne de métro, eh bien, c'est 73% de la population rennaise qui sera à moins de 10 minutes d'une station de métro.
Contre 44% actuellement.
Contre 44% actuellement. Et là, vous voyez bien immédiatement que la question du temps peut être un facteur de rééquilibrage social d'une population permettant, un, à toutes les populations de pouvoir se loger, et deux, d'accéder à l'ensemble des services et à l'emploi, parce que c'est évidemment un pilier essentiel du développement durable d'une ville comme la nôtre.
Alors, vous évoquiez à juste titre les temporalités au pluriel. Il a été beaucoup question au cours de cette journée des différents rythmes de la ville, notamment les temporalités festives, les temporalités nocturnes. Comment justement cette dimension-là est-elle vécue et appréhendée dans une ville comme Rennes, dont on sait la tradition universitaire, festive, revendiquée comme telle d'ailleurs, mais qui n'est pas parfois sans poser certaines petites frictions?
Oui, on a essayé de dire aux étudiants que 20h, c'était l'heure du coucher.
Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Bon, voilà, donc il faut trouver d'autres
65
solutions.
65 000 étudiants à Rennes, d'après les derniers chiffres, c'est toujours ça.
65 000 étudiants, je pense aussi que c'est une force et pas une faiblesse que d'avoir une ville universitaire. Et puis, ce n'est pas lié simplement à cette population. C'est tout simplement que nous vivons une grande mutation des temporalités que nous avions résumé fut un temps avec cette fameuse trilogie métro-boulot-dodo qui amenait finalement un certain conformisme. Et aujourd'hui, on voit bien que les temporalités sont totalement différentes aujourd'hui et doivent être appréhendées, y compris à travers l'objet urbain. Et puis, c'est aussi, dans votre question, un sujet éminemment complexe parce que c'est notre rôle d'expliquer aux habitants de Rennes, et notamment à ceux qui font partie des 45 000 habitants du centre-ville, qu'ils sont aussi habitants d'un cœur de métropole. Et que ce cœur de métropole, c'est aussi un lieu de passage d'une aire urbaine beaucoup plus vaste que ce seul quartier.
Donc, il faut en accepter la grandeur, mais aussi les servitudes, c'est ça ?
C'est sans doute ce vivre ensemble qui est un sujet parfois un peu complexe, mais qu'il faut absolument à chaque fois recontextualiser, parce qu'on a tendance forcément, et c'est logique, c'est humain, de penser simplement à sa propre vie, à son propre besoin, sans appréhender finalement l'environnement qui nous entoure. Et donc l'enjeu, et c'est tout le travail que nous faisons avec les collègues de l'ensemble de Rennes Métropole, à l'échelle des 43 communes, d'appréhender justement ce sujet de manière plus globale. Et ça impacte évidemment nos politiques publiques, la question de l'espace public, la question des transports et de ses horaires, la question des horaires d'ouverture, la question aussi, tout simplement, de notre présence culturelle, d'offres. Et on voit bien qu'on peut avoir parfois des frictions. Des frictions entre celui qui va subir des temporalités nouvelles et les autres qui ont besoin de ces temporalités nouvelles.
Il est possible d'expérimenter en la matière et on le voit notamment à Rennes, je pense par exemple à des temporalités qui n'étaient pas beaucoup investies par exemple le dimanche et qui le sont désormais avec des propositions régulières culturelles tous les dimanches à Rennes. Il est possible d'avoir que la ville soit une sorte de laboratoire au bon sens du terme, parce que les habitants ne sont pas des cobayes, c'est important de le rappeler, pour tester des innovations dans ce domaine.
Oui, on revendique l'expérimentation, c'est-à-dire que c'est des coûts qu'on propose aux Rennaises et aux Rennais. Les dimanches, c'était dans le programme municipal. Nous souhaitions effectivement proposer une offre culturelle de qualité, avec des acteurs évidemment présents sur la ville et sur la métropole, de manière gratuite, appréhendant l'espace public et les équipements publics. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une manière d'indiquer tout simplement que l'espace public est pour toutes et tous. Vous savez, aujourd'hui, si on reprend la situation rennaise, une personne sur deux vit seule, avec ou sans enfant. À l'échelle de la métropole, c'est une personne sur trois. Ça, c'est un constat sociologique. Et nous appartenons à une équipe qui pensons qu'il nous faut impérativement appréhender l'espace public, non pas comme un lieu de règlement et de seule tranquillité publique, mais bien comme un lieu de rencontre, comme un lieu de lien social. C'est indispensable. Alors après, on peut effectivement devoir, à côté de ça, par effet induit, gérer quelques tracas de bruit, de propreté. Mais finalement, ce sont des sujets qui sont, pour nous, accessoires du principal, permettre à chacun de pouvoir se retrouver sur l'espace public autour d'offres, par exemple, culturelles. Vous citiez les dimanches, mais ça peut être aussi les premiers dimanches de chaque mois où vous avez les équipements culturels gratuit. Ouverts. Ce sont les manifestations sportives qui peuvent parfois embêter, y compris l'automobiliste qui ne trouve pas son chemin habituel pour aller visiter telle ou telle personne. Mais ça fait partie, évidemment, de la ville des temps, de la ville animée, de la ville, finalement, qui permet à chacun de pouvoir trouver sa place. C'est essentiel. Sinon, eh bien, le risque, c'est que si nous sommes toujours tenus par les aléas ou les contraintes, la tendance, je parlais tout à l'heure de formidables machines à exclure, vous avez un autre mécanisme qui peut être assez simple et finalement apaisant pour un élu, c'est la muséification de la ville. C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien, on est chez soi, on est certes tranquille, mais on a une ville qui disparaît, qui se délite et qui laisse place à l'individualisme, au comportement individualiste. Alors vous avez des gens qui auront les moyens, la capacité sociale de pouvoir aller à la rencontre des autres, mais vous aurez énormément d'exclus qui seront totalement coupés de cet enjeu-là. Donc vous voyez que finalement, c'est la ville des équilibres, finalement. Il faut toujours trouver le bon compromis entre l'offre et puis les contraintes de cette offre. Mais je crois pouvoir dire que nous le faisons de manière sereine, dans le dialogue, mais quand on explique ça aux personnes, quand on explique ces sujets-là à la population, on a vraiment un aspect réceptif assez intéressant.
Encore un dernier point peut-être sur cette préparation du projet Rennes 2030. Nous avons beaucoup discuté aujourd'hui de certaines initiatives d'aménagement. Alors, différents qualificatifs ont été employés. On a parlé d'aménagement éphémère, réversible, mutable. C'est quelque chose qui prend place aussi sur l'espace public. Et de quelle manière, à Rennes, vous allez vous emparer de cette nouvelle tendance-là, qui n'est pas qu'un effet de mode, bien entendu ?
Qui peut être un effet de mode aussi. Donc, je dis ça parce que en matière urbaine, on a des sujets qui semblent comme ça arriver d'un coup, d'un seul, mais qui sont finalement, quand on regarde d'un peu plus près, des belles continuités historiques.
Simplement rebaptisées avec des termes un peu plus nouveaux et ronflants.
Voilà, un exemple, la construction participative, ce sont les coopératives ouvrières que nous avions après-guerre et qui ont fait le patrimoine d'aujourd'hui au sud de la gare avec tous ces pavillons.
Les maisons Castor.
Ou ces maisons Castor. Donc l'habitat participatif, finalement, a une histoire, a une racine. Mais sur ce sujet, c'est évidemment d'appréhender la question des temporalités sur justement ce sujet complexe de l'urbain. Pourquoi ? Parce que finalement, on voit bien que quand on discute avec la population, on l'a fait effectivement autour de Rennes 2030, la notion d'accueil des populations, tout le monde est d'accord, globalement. Surtout quand on a des enfants qui cherchent à se loger. Bon. La notion d'éviter de consommer des terres agricoles pour finalement un bien vivre ensemble, de savoir ce qu'on mange dans l'assiette, travailler au développement durable, aux filières courtes.
Ça marche aussi.
Tout le monde est d'accord. Bon. Et puis, une fois que vous avez passé ces sujets-là, vous dites, la conséquence, si on empêche la horizontalité, c'est de travailler la verticalité. Et là, globalement, on est assez d'accord avec le remède. Et quand vous commencez à parler de densité, de ville compacte, là, vous pouvez commencer à avoir des freins à la réflexion ou à la discussion. Et c'est tout l'enjeu aussi pour nous, à travers ce projet urbain où on se projette à horizon 15 ans sur Rennes 2030, c'est d'appréhender la densité avec des éléments ou des facteurs qui permettent d'objectiver cet enjeu-là. Parce que c'est jamais simple de voir effectivement un immeuble arriver à la place d'une maison. Mais quand vous dites, par exemple, que cet immeuble est nécessaire pour accueillir des populations, quel que soit leur revenu, que vous êtes à quelques minutes d'un transport en commun qui va éviter effectivement les fameuses deux voitures ou les deux pleins par semaine, que vous êtes dans une situation de travailler les formes urbaines et la question architecturale, là, vous avez une appréhension positive. Et pour revenir à votre question précisément, on n'est pas dans un effet de mode, mais c'est vrai qu'il faut veiller aussi à ne pas tomber dans des phénomènes de mode où effectivement aujourd'hui on entend de plus en plus parler d'appropriation éphémère, donc du mobilier dit ludique qui ne va pas vivre 30 ans, des occupations ponctuelles éphémères.
Cela dit, vous avez joué ce jeu-là aussi et de belle manière avec l'exposition Rennes 2030, les aménagements ludiques pour le coup qui ont ponctué pendant quelques mois les abords de la ville.
Tout à fait, et on va le poursuivre, mais simplement je voulais préciser que tout ça n'a de sens que si nous ne perdons pas les valeurs qui guident le principe d'aménagement urbain. Pourquoi je dis ça ? C'est que vous pouvez aussi avoir une tendance à la gentrification des modèles urbains, y compris du mobilier, où finalement vous avez une spatialisation et qui crée de la ségrégation entre quartiers. En clair, vous avez du mobilier bobo sympa en centre-ville et dans les quartiers populaires, vous n'avez pas ce mobilier-là parce qu'il n'est pas visible. Et puis, très, très doucement, vous glissez vers une approche urbaine différenciante, ce qui n'est pas le cas de Rennes. Ça fait 40 ans que nous travaillons avec une approche unique, unitaire et globale du traitement des espaces publics. En clair, le traitement de l'espace public Globe-Blône est identique à celui qui va être imaginé à la place Sainte-Anne. Et c'est très important, là aussi, quand on parle de cohésion sociale, que c'est pour ça qu'à Rennes, il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas de quartier relégué. Nous avons effectivement des quartiers avec leur identité, leur patrimoine. Et d'ailleurs, le document d'urbanisme sert aussi à protéger ces éléments du patrimoine. On parlait des maisons Castor tout à l'heure. Mais c'est important que lorsque nous appréhendons des sujets nouveaux de société comme ce mobilier éphémère, comme cette appropriation d'équipements qui vont soit être rénovés dans quelques... Pasteur fait partie, je crois que après
vous... Voilà, c'est juste après.
Vous verrez que Pasteur va être partiellement une école publique, mais c'est aussi un lieu d'occupation ponctuelle, éphémère, de projets créatifs autour de la jeunesse rennaise. C'est très intéressant. Simplement... veillons à ce que cette approche, qui peut être une approche d'usage, ne vienne pas transformer finalement les valeurs qui doivent nous guider. Les valeurs, je les ai déclinées, c'est la capacité à pouvoir accueillir, au nom de la solidarité, toutes les populations, de faire en sorte que l'espace public soit traité de la même manière sur l'ensemble de la ville pour éviter justement ce sentiment de déclassement et de ségrégation. Et puis travailler aux mobilités, parce que c'est la clé du développement durable des villes pour demain.
Voilà une transition toute trouvée pour parler avec vous, Jean-Luc Godin. quand on est en charge, comme vous l'êtes, à l'échelle intercommunale de Rennes Métropole, hein, du plan de développement et de la mise en œuvre du PLUI, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, cette dimension des mobilités dans une ville qu'on a coutume de qualifier de ville-archipel, un territoire constitué de plusieurs communes avec des distances entre elles, c'est le point clé. Et là, on retrouve notre dimension temporelle qui nous a occupés toute la journée.
C'est une dimension importante qui a été aussi reprise lors de la révision du schéma de cohérence territoriale, où la réflexion s'est posée de savoir comment fonctionnait et comment vivait notre territoire et d'y mettre une armature urbaine, ce que l'on a appelé une armature urbaine, pour justement viser le rapprochement des services de la population au maximum. Donc, cette temporalité, elle est déjà travaillée à cette échelle-là. Nous avons un certain nombre de communes qui ont des fonctions un peu différentes les unes des autres. Nous avons des communes dites des pôles de proximité qui vivent sur elles-mêmes, mais qui sont aussi assez proches de communes qui sont des pôles structurants de bassin de vie. C'est-à-dire que sur ces communes-là, vous avez un certain nombre de services. Et donc tout l'intérêt et tout l'enjeu, c'est bien évidemment de rapprocher au maximum, en temps, bien évidemment, pas forcément en kilométrage, mais c'est toute cette notion de vie et d'accès aux services, en temps et en moyens aussi de déplacement, la population, les populations de l'ensemble des services. Alors, qu'il s'agisse d'aller vers la ville-centre, ce que Rennes Métropole a fait sur l'ensemble des communes qui font la métropole, puisque chaque commune est desservie par une ligne de bus propre, et pas en site propre, hein, une ligne de bus propre.
Dédiée,
voilà, merci. Et donc, qui amène, alors, avec un temps plus ou moins long sur...
Et des fréquences qui ne sont pas totalement les mêmes.
Bien évidemment. Mais la réflexion est en cours au niveau des services des transports urbains pour savoir s'il n'y a pas d'autres possibilités de rapprocher davantage encore les populations des services par les moyens de transport en commun. Dans notre réflexion sur le plan de déplacement urbain, la révision de ce plan de déplacement urbain, eh bien c'est tout l'enjeu aussi que de raccourcir le temps au service. Et puis le travail qui est fait sur chacune des communes dans cette révision du PLU. C'est la création du plan local d'urbanisme intercommunal. C'est justement aussi l'intérêt de cette réflexion en commun de 43 communes qui réfléchissent en commun au projet d'un territoire. Comment vivons-nous tous avec nos spécificités de communes, avec nos histoires de communes? Comment est-ce que l'on peut envisager une vision, envisager une volonté, une politique aussi de vie de territoire? Et comment est-ce que ça peut se décliner sur chacune des communes? Ce qu'évoquait Sébastien pour la ville-centre, eh bien, se réfléchit pour chacune des communes, quelle que soit sa taille. Comment est-ce que l'on va réinventer nos communes sur elles-mêmes, sur notre centralité? Comment est-ce que l'on va ramener sur chacun des centres-bourgs, eh bien, la vitalité des commerces? Comment est-ce qu'on va ramener la vitalité des services? Comment est-ce que l'on va faire accepter des formes nouvelles dans les centralités de nos communes, qui étaient éminemment pavillonnaires jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, avant que le plan local de l'habitat eh bien, inverse un petit peu la tendance et amène quelques formes un peu plus hautes. Aujourd'hui, eh bien, il y a des marches qui sont encore à gravir localement, mais voilà, nous avons aussi affaire à une population qui est plus urbaine qu'il y a 20 ans ou 25 ans, et donc qui accepte aussi dans le paysage des formes très différentes. Et prendre en considération aussi, Sébastien l'a bien noté, la notion de l'espace public, qui a valeur d'équipement au même titre qu'une salle de spectacle, au même titre qu'une salle de sport. Et ça, c'est peut-être au niveau des élus, à accepter cette vérité d'investissement dans l'espace public, parce que cet espace public génère bien évidemment le vivre ensemble. Et la qualité aussi de l'espace public fait l'acceptabilité d'un certain nombre d'inconvénients que l'on n'avait pas auparavant dans d'autres formes d'habitat. Donc c'est toute cette démarche qui est valable à l'échelle de la ville-centre avec ses 210 000 habitants, mais aussi pour chacune de nos communes, qu'elles soient plus petites.
Et je crois que vous aimez utiliser cette expression des villes des courtes distances, faire finalement qu'on soit jamais très loin de services, oui, de possibilités rendues aux habitants.
De raccourcir les distances aux pôles structurants de bassin de vie qui ne doivent pas être éloignées de plus de 5-7 km de chacune des villes dites de proximité. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs sur notre territoire métropolitain, c'est ce qui préexistait et qu'il nous faut renforcer, bien évidemment, renforcer aussi par des réflexions sur les mobilités. Alors, les mobilités actives, on va dire ça, parce que les mobilités douces, voilà, il y a certaines côtes qui ne sont pas si douces que ça quand on est à vélo. Donc, ce sont des mobilités actives et avec d'autres, des outils un peu nouveaux. Voilà, et bien évidemment, le vélo à assistance électrique, on a vu...
Ça explose, hein.
Ça explose.
Enfin, pas les batteries,
non,
hein, mais...
Non. C'est pas comme les... Voilà. Bon, c'est pas des batteries Samsung, donc tout va bien. Bien évidemment, les 1000 vélos à assistance électrique qui ont été mis à disposition par Rennes Métropole en tout début d'année ont été pris d'assaut. Il y a eu une nouvelle commande qui a été lancée. Et l'on trouve aussi maintenant, eh bien, le travail qui reste à faire entre chacune des communes, c'est de mettre en place les pistes aussi qui soient un peu sécurisées pour limiter le risque et encourager ce mode de déplacement.
Voilà qui nous amène effectivement à la responsabilité de l'aménageur. Comment c'est prendre en compte dans les projets d'aménagement qui sont les vôtres ces dimensions-là, très concrètement? On a évoqué beaucoup de pistes et exploré beaucoup de pistes au cours de cette journée. Est-ce qu'il y a des initiatives qui, ici, à Rennes Métropole, vont pouvoir voir le jour, qui se nourrissent justement de ces pratiques liées à l'examen des temporalités?
Aujourd'hui, on l'a évoqué un petit peu. Vous aviez un sociologue urbaniste à la table. L'interrogation, en fait, dans les projets urbains et dans les gros projets urbains, c'est comment la ville, en fait, la réflexion se fait à l'échelle même de la ville ou de la commune. Elle ne se fait pas à l'échelle du quartier, tout seul dans son coin. Comment est-ce que cette ville ou ce morceau de ville vient se raccrocher? Comment est-ce qu'il vient interférer dans l'organisation même de la ville? Et quelles sont les continuités qu'il nous faut mettre en place? Quelles sont celles qu'il faut créer? Quelles sont celles qu'il faut renforcer, simplement, pour que, eh bien, cet élément nouveau ne vienne pas déséquilibrer ou, à contrario, rééquilibrer peut-être une ville qui était un petit peu en déficit d'organisation. C'est aussi toujours un moment pour se réinterroger sur notre propre fonctionnement, sur le souhait des habitants, sur les envies et aussi sur le devenir.
Alors, Sébastien Sémery, on a beaucoup parlé tout au long de cette journée d'une notion que je crois vous aimez aussi utiliser de temps en temps, la fameuse maîtrise d'usage. Hein, et à côté de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage. Et les habitants, ils ont parfois une perception un petit peu tronquée ou en tout cas partielle du temps du projet urbain qui n'est pas celui qu'ils vivent au quotidien. Quand on est dans une ville, vous l'avez rappelé, comme Rennes, qui nourrit de nombreux projets de développement des nouveaux quartiers, qui voit le jour aussi, comment faire en sorte que le fil ne soit pas rompu avec les habitants qui sont confrontés à une forme de métamorphose un peu de leur ville et qui perdent parfois un peu leur repère. Ça a été aussi l'enjeu de Rennes 2030 et de tout ce travail qui a été mené. Quels enseignements en tirez-vous?
Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des politiques publiques comme on les faisait avant. Et ça vaut surtout pour l'aménagement. Pour les Rennais qui sont là, je rappelle que le Colombier, qui est une formidable opération d'urbanisme sur dalle en cœur de ville, a été faite sans aucune concertation.
Au début des années 70.
Au début des années 70. Aucune concertation. Voilà.
Oui, ce serait plus imaginable aujourd'hui, c'est vrai.
Bon, donc mesurons aussi les temps et qui sont les nôtres, parce que finalement, quand on appréhende l'objet ville, finalement, l'humilité arrive assez vite, parce que à la fois dans les choix, mais aussi dans l'accompagnement de ces choix. Je donne à chaque fois cet exemple pour moi, qui intéresse aussi la question du temps. Quand le maire de l'époque, aux alentours de 1870, décide, malgré l'opinion publique, d'implanter la gare là où elle est aujourd'hui, alors que tout le monde, et notamment les bourgeois rennais qui avaient fait l'acquisition autour de la rue du Pont des Loges d'un certain nombre de terrains, pensaient que la gare devait plutôt être en cœur de ville, juste après la Vilaine, donc dans le quartier du Pont des Loges. Quand il prend la décision avec l'État de la faire dans la Pampa, il prend une décision historique pour la ville. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, avec Rennes Métropole, on fait Euro-Rennes, on maintient sur un point en cœur de métropole l'ensemble des modalités de transport de demain. La LGV, le train régional, la gare routière régionale qui était encore l'année dernière départementale, les deux stations de les deux lignes de métro, et donc vous avez sur un point cardinal en cœur de métropole l'ensemble des modalités de transport. Je nous invite à nous comparer avec Amiens, avec Reims, Nancy, Metz, pour s'en convaincre. C'est tout l'enjeu des décisions politiques en matière d'aménagement. Si on devient un peu plus contemporain, c'est la première ligne de métro. Moi, je fais le fanfaron là en disant, avec la deuxième ligne de métro, 73% des habitants seront à moins de 10 minutes d'une station de métro. Mais pour les Rennais que nous sommes, je nous invite à nous remémorer les polémiques quand il a été décidé de mettre en place la première ligne de métro. Bon. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau du projet, deuxième ligne de métro, 1,2 milliard d'euros, aménagement d'un square, d'une place...
Ça s'accompagne. Hein.
C'est nécessairement aujourd'hui impérativement besoin de travailler avec la population. Et travailler avec la population, ça ne veut pas dire écouter la population. C'est d'établir des règles du jeu. Et de débattre avec elle, et d'être dans une relation aussi, finalement, d'éducation populaire, où chacun s'écoute, ça c'est la forme, mais aussi dans le fond, chacun fait un pas pour appréhender le sujet, finalement, d'intérêt général.
Il y a une méthode rennaise dans ce domaine ?
Alors, c'est vrai qu'on a une histoire. On a la chance d'avoir, par exemple, 20 ans avant la loi de 2002, mis en place des conseils de quartier. On a une présence associative très importante, 5000 associations. Ce qui nous amène effectivement à finalement avoir toujours eu, et ce depuis maintenant quelques décennies, des comptes à rendre à la population. C'est-à-dire que les décisions ne peuvent pas se prendre dans un bureau de manière très verticale, sans en référer à qui que ce soit. Donc ça, c'est une habitude prise dans cette ville. Mais c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, nous avons voulu franchir un cap supplémentaire. Et si on doit le résumer, finalement, c'est de passer... d'une relation exclusive avec les associations à une relation plurielle intégrant les habitants. Parce que vous avez effectivement des habitants qui n'ont pas forcément envie d'adhérer à une association de quartier, à une association de sportive, culturelle, etc., mais qui en même temps ont leur mot à dire. Et puis vous avez aussi un vrai enjeu social. Jean Villard, Malraux appelait ça le non-public. Ce sont ceux qui sont éloignés. Vous avez des personnes qui n'oseront jamais franchir les portes d'un théâtre, et encore pire, les portes d'un opéra, mais vous aurez ces mêmes populations qui n'oseront jamais prendre la parole en réunion publique, parce qu'ils considèrent que c'est pas pour...
Ils ne sont pas légitimes.
Ils sont pas légitimes. Et ça, c'est un vrai enjeu social, parce que ces personnes sont d'abord des citoyens, ensuite, ces personnes sont des experts d'usage, et enfin, ces personnes ont absolument besoin d'être entendues pour aussi valoriser le travail qu'on fait vis-à-vis de ces personnes. Et c'est tout l'enjeu, finalement, de ce que nous avons mis en place avec la fabrique citoyenne et la fabrique urbaine, où on a voulu tout simplement dédramatiser un sujet qui est extrêmement sérieux. Parce que si vous appréhendez la révision du PLU, rien qu'avec cette phrase,
par l'angle réglementaire,
et le code de l'urbanisme, vous excluez les 3/4 de la population qui va se considérer soit comme totalement éloignée du sujet, soit considérant que c'est un sujet éminemment technique et que finalement, ils n'ont pas de temps à perdre. Alors que l'urbanisme, la question urbaine, c'est un sujet éminemment politique.
La ville, c'est la vie.
C'est un sujet... Mais je le dis parce que c'est vrai que parfois, on a tendance un peu à se dire aujourd'hui, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de politique. Finalement, tout est dans tous les normes, c'est Bruxelles, etc. Non ! Quand on veut, on peut. Et quand on veut assumer des discours politiques, on peut utiliser les objets réglementaires pour les appliquer. Et lorsque, par exemple, on veut effectivement qu'une ville ne soit pas une formidable machine à exclure, nous avons en notre possession des outils réglementaires qui permettent de réguler ces sujets-là. Donc, le mieux, me semble-t-il, c'est de pouvoir aller expliquer à la population ces sujets en les décomplexifiant, en mettant aussi un côté un peu ludique. C'est tout ce que nous avons fait, par exemple, avec cette fameuse ligne rouge qui traversait les quartiers et qui invitait le samedi matin à rejoindre cette ligne avec une visite et avec des techniciens qui connaissent leur ville parfaitement et qui ont pu justement aider les gens à regarder leur ville, leur quartier,
autrement.
Leur rue, autrement. Parce qu'effectivement, on ne sait pas tout. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Et puis, je dois dire aussi que le numérique facilite beaucoup les choses. Quand vous présentiez un projet urbain sur un plan 2D, À l'échelle 1/400e,
ça parle moins, forcément.
C'est compliqué, on se sent pas très à l'aise, surtout quand on a eu des mauvaises notes en techno.
À vous aussi.
Voilà. Mais imaginez-vous ce même projet urbain présenté en réalité augmentée sur un écran où effectivement on peut toucher, aller comme. Parce qu'on est tous fait pareil, aller d'abord voir sa maison ou son domicile pour ensuite appréhender de manière plus macro l'ensemble du projet urbain, ça fonctionne. Et quand je parlais justement des personnes silencieuses,
là, elles s'expriment
ce silence assourdissant, voilà. Eh bien, vous avez immédiatement ces personnes qui se sentent totalement investies et qui, voilà, de manière ludique, vont pouvoir participer de leur manière. Ça vaut aussi pour les enfants. On a fait des ateliers, par exemple, avec RenCraft, qui est un logiciel de développement de la ville tiré d'un jeu bien réel qui marche bien sur justement les plateformes de réseau. Et là aussi, c'est intéressant d'écouter les enfants. Parce que quand on pense Rennes 2030,
c'est la ville,
c'est leur ville leur à venir. Proposer de penser la ville quand ils seront adultes. Et vous avez des réflexions assez intéressantes. Donc, et quand un enfant est intéressé par ce sujet-là, ben, derrière, on peut se dire qu'il va en parler aussi le soir à la maison. Et on crée aussi l'émulation et le débat civique, finalement. On revient peut-être parler d'effet de mode. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que le combat de l'éducation populaire, de l'écoute civique, de l'engagement citoyen est un combat permanent et que l'individualisme est un mal qu'il faut combattre avec le sourire, mais de manière très réelle.
Voilà, c'était votre coup de gueule et votre coup de cœur. Je fais une allusion à des coups de cœur et des coups de gueule qui se sont exprimés durant toute cette journée. Alors, on va terminer justement peut-être là-dessus avec vous, Jean-Luc Godin. Vous avez assisté à l'ensemble de ce séminaire. Il s'est dit beaucoup, beaucoup de choses dans des domaines très différents, avec un fil rouge, là aussi, qui a été cette question des temporalités qui nous a fait relier finalement toutes les questions de l'aménagement de la ville et d'aménagement urbain. S'il fallait en retenir quelques-uns, qu'est-ce que vous avez envie de partager ce soir et de remporter chez vous?
Il y a beaucoup de temporalités en fait dans l'aménagement. Il y en a une qui est importante. Il y en a un qui est la temporalité justement qui vient d'être évoquée. C'est de la concertation et de la fabrication même de l'aménagement et de notre ville. On est des aménageurs de vie, on est des aménageurs de ville. C'est tout l'enjeu. Et ensuite, dans la temporalité envisagée, on peut envisager plein de choses. Voilà, l'habitat qui est modulaire au fil de la vie, ça, c'est pas forcément très simple à mettre en œuvre, mais c'est à réfléchir malgré tout. Ce sont les espaces aussi. Nous engageons, alors, voilà, pour Rennes, par exemple, l'aménagement d'un petit quartier qui s'appelle Via Silva sur 650 hectares.
Tout petit quartier.
Et donc, la réflexion, il ne faut pas être l'humilité est de mise et nous n'avons pas la boule de cristal et ne savoir ce qui se passera dans 40 ans ou 50 ans serait complètement illusoire. Par contre, il nous faut mettre simplement les outils en place et aussi aller au fil du temps. Prévoir dans la construction l'accompagnement du délaissement de l'automobile pour les transports en commun au fur et à mesure, avoir des espaces de parking éphémères. Là, on avait aussi du temporaire ou éphémère. Ce sera plutôt temporaire qu'éphémère s'il y a des nuances dans ces deux termes. Mais ce sont toutes ces temporalités mises les unes aux autres et bien évidemment de toujours rapprocher dans le temps les personnes des services dont elles ont besoin, qu'il s'agisse de l'accès à la culture, de l'accès au commerce, de l'accès simplement eh bien, à la famille, aux amis. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre par les moyens de transport en commun ou toute autre forme, le vélo, la voiture, le covoiturage, tous ces espaces-temps gagnés. Et peut-être aussi faire en sorte que le transport ne soit pas toujours... Alors, c'est peut-être plus pour ceux qui prennent des transports en commun sur une durée un peu plus longue, que ce temps de transport ne soit pas un temps perdu non plus. Ça peut être aussi un temps approprié pour soi, pour écouter de la musique, lire ou faire toute autre chose, mais un temps à soi. Enfin, voilà, ce sont les temps de la vie que l'on peut-être réfléchir un petit peu différemment.
Eh bien, voilà un beau programme qui s'inscrit lui aussi dans la durée. Merci beaucoup à tous les deux pour cette conclusion. Merci à vous pour votre écoute et votre participation active. La journée n'est pas terminée. Vous avez rendez-vous à l'hôtel à projet Pasteur. Je crois qu'il faut suivre le guide, c'est ça. Et on va y aller en métro. C'est direct. Très bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt.